Chapitre 37. Le printemps était revenu, primes verts et violettes se vendaient à tous les coins de rue. Le Parlement était réuni et Londres, s'éveillant de son assoupissement hivernal, reprenait une nouvelle vie pleine d'éclat et de vigueur. Les Dovedale occupaient leur maison de Kensington. La duchesse avait lancé nombre de cartes d'invitation à des soirées quasi littéraires et scientifiques qu'elle donnait le mardi. Lady Mabel polissait ses poèmes et les repolissait sans cesse avec la résolution bien arrêtée, mais secrète encore, de les publier. Personne, sauf ses parents et Roderick Vaudrey, personne ne savait rien de ses ambitions poétiques. Le livre serait offert au public sous un pseudonyme. Non pas que Lady Mabel fût assez philistine pour croire qu'écrire de belles et bonnes poésies fut indigne de la fille d'un duc, mais elle se disait que la noble maison d'Ashbourne serait sérieusement compromise si la critique, toujours sévère pour les muses titrées, s'avisait de dénoncer dans ses vers quelque incorrection. Elle se rappelait les attaques féroces de Brougham contre le petit Byron. Monsieur Vaudrey était à la ville. Il montait beaucoup à cheval, passait une heure ou deux au Tatters Hall, fréquentait trois ou quatre clubs de jeunes frivoles, buvait beaucoup d'Apollinaris et tenait pour la plus rude des tâches l'art de tuer le temps. Naturellement, il devait certaines heures à la maison de Kensington, où l'on comptait sur lui à déjeuner tous les jours, à dîner quand ni la famille ducale ni lui-même n'étaient invités ailleurs. Enfin, où il lui fallait assister à toutes les soirées données par sa tante. Son couvert était toujours mis, quel que fût le caractère de la réunion, dîner politique ou dîner de noblesse. Il devait se marier au commencement d'août. Tout était convenu, on passerait la lune de miel en Suède et en Norvège, le seul pays d'Europe que Lady Mabel n'eût pas encore exploré, et après avoir vu toutes les curiosités, on reviendrait par le Danemark si l'on avait le temps. Lady Mabel piochait le suédois et le norvégien afin de mieux profiter du voyage. « Il est si ennuyeux de dépendre des courriers et des interprètes, disait-elle. Je serai pour vous une compagne plus utile, mon cher Roderick, si je sais parfaitement la langue de chacun des pays où nous irons ensemble. » « Ma chère Mabel, vous êtes une jeune personne bien remarquable, » s'écriait son fiancé. « Si vous continuez ainsi, à 40 ans, vous serez une linguiste aussi forte que le cardinal Wiseman. » « Il est très facile d'apprendre les langues quand on a l'habitude de les étudier et quelques dispositions pour l'étymologie, » répondit modestement Lady Mabel. Mais l'heure de la fameuse publication approchait, et la jeune poétesse éprouvait le besoin d'avoir un confident. La duchesse admirait volontiers, mais son admiration manquait de flair et devinait rarement les bons endroits. Le duc était hors de question. Si quelque nouveau Shakespeare lui avait fait l'insigne honneur de lui dire, à lui le premier, une tragédie de la valeur d'Hamlet, l'intérêt du drame n'eût pas distrait le brave duc de ses pensées favorites, rareté et cherté du guano, irrigation, élevage de bétail. Et c'est ainsi que, faute de mieux, Lady Mabel fut amenée à lire ses vers à son futur mari, à peu près comme Molière lisait les siens à sa vieille servante La Forêt. À cette heure décisive de sa carrière poétique, Mabel Ashbourne eût voulu un auditeur qui ne fût pas seulement patient et bénévole. Il lui eût fallu un critique à l'oreille fine, sensible au rythme et à l'euphonie, un juge d'un goût assez raffiné pour apprécier la valeur musicale de certaines combinaisons de syllabes, et pour décider, quand elle hésitait, entre deux épithètes d'égale force, mais de sonorité plus ou moins mordante. Et c'est à cette mission délicate qu'elle conviait parfois son fiancé par un radieux après-midi d'avril, après le déjeuner. Les deux amoureux étaient autorisés à se réfugier dans le cabinet de travail de Lady Mabel, une gaie et jolie chambre à l'étage supérieur, dont les vieilles fenêtres, dans le style précieux de la reine Anne, ouvrant sur un balcon transformé en parterre de fleurs, donnait sur les avenues nombreuses du jardin de Kensington, qui laissait entrevoir au loin, dans son rayonnement rougeâtre, la façade du vieux palais. Rory faisait de son mieux pour se rendre utile. Avec quelle bonne volonté il s'appliquait! Il y allait de tout cœur. Mais l'atmosphère déprimante de Londres et peut-être aussi le déjeuner le rendaient somnolent, et il avait souvent beaucoup de peine à étouffer ses bâillements et à tenir ses yeux ouverts, tandis que Lady Mabel dévidait les chevaux de ses vers embrouillés. Son poème planait au-delà du septième ciel de la métaphysique. Malheureusement, Rory n'entendait rien à la métaphysique. Il n'avait jamais lu Victor Cousin. Les lumières transcendantes de la philosophie allemande lui étaient inconnues, et un sentiment d'angoisse et de désespoir s'emparait de lui à mesure que la poésie de sa fiancée s'affadissait en une sorte d'hégélianisme à la trentième dilution, ou pastichait maladroitement les vers les plus obscurs de Browning. Ou bien je suis d'une stupidité inquiétante, ou bien cela est formidablement difficile à comprendre, se disait-il, jetant sa langue au chien après la lecture d'un poème tragi-philosophique, dont le héros, une manière de Faust à l'eau de rose, dialoguait, controversait et argumentait sur les questions les plus abstraites de la vie et de la foi avec un Méphisto sucré. Il faut croire que Lady Mabel, à voir les yeux clignotants et humides de Rory aux efforts qu'il faisait pour garder bonne contenance, avait deviné chez lui une sorte d'oppression, car après le premier acte, elle interrompit sa lecture pour lui dire d'un air offensé « Je crains fort que vous n'aimiez guère l'exposition de ma tragédie de l'âme sceptique. » Et Rory de s'excuser tant bien que mal en balbutiant « Je crains, moi, d'être un peu lourd et obtus cet après-midi. Votre premier acte est évidemment fort bien écrit, les vers en sont harmonieux, une vraie musique. On en peut douter pour peu qu'on ait l'oreille. Mais pardonnez-moi, il me semble que parfois vous êtes un peu trop abstraite, trop métaphysique, et que les termes scientifiques employés par vous, par-ci, par-là, dépassent le niveau intellectuel du public ordinaire. « Mon cher Roderick, pouvez-vous admettre que, dans un siècle dont la caractéristique essentielle est le rapide avancement des sciences, il y ait un être assez inepte pour ne pas comprendre la terminologie scientifique ?»« Vous avez peut-être raison, ma chère. Je crains d'être fort en arrière du siècle. J'ai trop vécu dans le Hampshire. Je vous avoue franchement que quelques expressions de votre tragédie sont de l'hébreu pour moi. » Pauvre Roderick, je ne vous prends pas pour une personnification achevée de l'esprit du siècle, mais je ne vous permets pas de vous traiter d'ignorant. Je suis contente que vous aimiez la cadence de mes vers. Vous rappelle-t-il un de nos poètes contemporains ? Oui, je crois qu'il me rappelle confusément Browning. Ah, j'en suis heureuse. Je ne voudrais pas pour tout au monde être une imitatrice, mais Browning est mon poète favori. « Quelques-unes de ses plus petites pièces sont extrêmement jolies, » dit l'incorrigible Rory. « Par exemple, ce petit poème intitulé « Art et jeunesse » et cet autre, « La femme de James Lee », est vraiment gentil, si toutefois on est sûr d'en pénétrer le véritable sens. Mais j'imagine que c'est trop attendre de n'importe quel grand poète. » Il est des conceptions superficielles qu'on saisit du premier coup, il en est d'autres, plus profondes, qui demandent de l'étude, répondit Mabel avec condescendance. C'est là qu'est la religion de la poésie. Sans doute, reprit Rory vivement, mais franchement, ma chère Mabel, si vous voulez que votre livre devienne populaire... Je n'ai pas besoin que mon livre soit populaire, Browning ne l'est pas. Si j'avais tenu à l'être, j'aurais été plus terre à terre, j'aurais écrit quelques romans. Eh bien, si vous voulez être comprise par les intelligences moyennes, vous ne ferez pas mal, je crois, de renoncer à votre terminologie scientifique et de sacrifier une bonne moitié de votre métaphysique. Byron, dans tous ses poèmes, n'a pas une seule expression scientifique ou technique. Mon cher Roderick, vous ne voudriez certainement pas me comparer à Byron, le poète des Philistins. Vous pourriez tout aussi bien me mettre au même rang que l'auteur de Lalla-Rookh, ou me conseiller d'écrire comme Roger ou Campbell. Je vous demande pardon, ma chère Mabel, j'ai bien peur de n'être qu'un Philistin des pieds à la tête. Car pour moi, Byron est le prince des poètes. Et je préférerais avoir écrit le Giaour plutôt que tout ce qui a été fait depuis. « Mon pauvre Roderick !» s'écria Mabel avec un soupir de pitié. « Autant dire que vous seriez fier d'avoir écrit les Pickwick Papers. »« Je le crois parbleu bien, » répondit gaiement Rory. « C'est-à-dire que, si j'avais inventé Winkle, je me tresserais des couronnes. »« Vous rappelez-vous la promenade à cheval de Rochester à Dingley Dell ?»« Une des plus belles choses qu'on ait jamais écrites !» Et cet incorrigible étourdi se renversa dans son fauteuil et se mit à rire de tout son cœur au souvenir de cet épisode de la vie du fameux Nathaniel. Mabel Ashbourne ferma son manuscrit et se fit le serment de ne plus jamais lire aucune de ses poésies à Roderick Vaudrey. C'était parfaitement inutile. Le pauvre garçon faisait ce qu'il pouvait, mais il était d'une sottise incurable. Un homme qui admirait Byron et Dickens, et considérait Macaulay comme le premier des historiens. Décidément, il n'y avait pas à compter sur une stupidité pareille, et Mabel se disait avec désespoir « Aucune intimité intellectuelle n'est possible entre nous. Dans le domaine de la pensée, nous habiterons loin l'un de l'autre, complètement et constamment séparés. » Et elle referma le précieux volume dans son pupitre. « Les chevaux sont commandés pour 5 heures, » dit-elle. « Voulez-vous aller chercher le vôtre et venir me prendre ?»« J'en serai enchanté, » répondit l'amoureux, heureux d'en être quitte à si bon marché. Ce fut vers cette époque que Lord Mallow, qui consacrait toutes ses capacités à la régénération de son pays natal, obtint un immense succès à la Chambre avec un discours sur la question irlandaise. Il avait passé l'hiver à Dublin, où il avait fait merveille, présidé des meetings patriotiques à la Rotonde, se déclarant le champion du Home Rule et demandant encore et toujours le rappel de l'Union. Il était l'un des rares Home Rulers ayant pignon sur rue et ne pouvant que perdre à un bouleversement de l'ordre social. Mais c'était un fou désintéressé, ayant le courage de ses opinions. C'était le temps où M. Gladstone était Premier ministre et où les radicaux irlandais le considéraient comme le seul homme d'État capable de leur donner le Home Rule. À la Chambre des communes, Lord Mallow ne craignait pas de répéter ses arguments de la Chambre ronde de la Rotonde. Si son langage fut moins véhément, ses opinions n'en furent pas moins fermes. Il avait son parti là aussi bien que de l'autre côté du canal Saint-Georges, et son parti l'applaudit. Les journaux radicaux chantaient ses louanges sur tous les tons, le portaient au nu, le comparant à Barks Caran et à O'Connell. Tout d'abord, il avait été le lion des réunions intimes. Il commençait maintenant à devenir une célébrité. On le recherchait à tous les dîners officiels. La duchesse de Dovedale trouvait charmant de sa part de ne jamais manquer une de ses soirées, malgré ses occupations multiples. Quelquefois même, retenu par un débat important, il arrivait à fond de train et passait une heure dans le salon de la duchesse, expliquant à Lady Mabel sa politique de réconciliation ou se tenant près du piano quand elle jouait du Chopin. Lord Mallow n'avait jamais oublié le plaisir qu'il avait éprouvé en rencontrant une jeune fille qui connaissait si parfaitement l'histoire de son pays et s'intéressait aux espérances de l'Irlande. Il recherchait en tout les sympathies de Lady Mabel, dans ses triomphes comme dans ses désappointements. Cette confiance lui plaisait et la flattait, et elle était toujours prête à l'écouter gracieusement. Elle, dont l'âme était pleine d'ambition, elle s'intéressait vivement à la carrière d'un jeune homme ambitieux qui avait toutes les raisons pour être léger et paresseux, et cependant n'était ni l'un ni l'autre. « Si Roderick seulement lui ressemblait, il ne me manquerait rien, » pensait-elle. « J'aurais été si fière de la célébrité de mon mari. J'aurais eu tant de bonheur à l'aider dans sa carrière. Les livres bleus les plus épais ne m'auraient jamais fatiguée. Les détails les plus arides des travaux parlementaires m'auraient intéressé si j'avais pu l'aider à se faire une notoriété politique. Un soir que Lady Mabel et Lord Mallow s'étaient un peu éloignés du monde aristocratique et des beaux esprits, et s'étaient retranchés dans l'embrasure d'une fenêtre pour y causer sérieusement de l'Irlande et de la réalisation complète de son idéal de bonheur, la jeune fille, sans le vouloir, cita une strophe d'une de ses poésies qui lui paraissait se rapporter à ce sujet. « De qui sont ces vers ?» demanda vivement Lord Mallow. « Je ne les connais pas. » Mabel rougit comme une pensionnaire surprise en flagrant délit de billets doux. « Sur mon âme, dit l'Irlandais, serait-ce de vous ?»« Oui, j'en suis sûr. Votre esprit est trop au-dessus du commun niveau des intelligences pour ne pas s'exprimer parfois dans le style poétique. C'est bien de vous, n'est-ce pas ?»« Pouvez-vous garder un secret ?» demanda humblement Mabel. « Pour vous, oui, aucune torture ne me l'arracherait. Eh bien, la strophe est de moi. J'ai écrit beaucoup en vers. Avant la fin de la saison, je vais publier un livre anonyme. C'est tout à fait un secret, personne ne le sait, sauf ma mère, mon père et M. Vaudrey. Comme ils doivent être fiers de votre génie, M. Vaudrey particulièrement. Ah, voilà un homme heureux. Il pensait à Violette Tempest, dont il attribuait les refus à sa préférence pour Rodrigue Vaudrey. Et au moment où il aurait peut-être trouvé l'idéal de ses rêves, former une alliance avantageuse, tant du point de vue mondain que du point de vue politique, trouver encore son jeune homme sur son chemin. « Je ne crois pas que M. Vaudrey s'intéresse beaucoup à mes essais poétiques, » répondit Lady Mabel avec une feinte insouciance. Il se soucie bien de poésie. Figurez-vous qu'il adore Byron. « Quel admirable épigramme !» s'écria l'Irlandais, dont la flatterie était la seconde nature. « Je la noterai dans mon album. Ce serait peut-être trop vous demander, mais comme je serais fier si vous vouliez consentir à me lire quelques-uns de vos poèmes. »« Sérieusement ?» balbutia Lady Mabel. « Comment ? Mais oui, ce serait la plus grande faveur que pût m'accorder votre amitié. Si j'étais sûr de ne pas vous fatiguer, j'aimerais beaucoup à avoir votre opinion sincère, mais ce serait par trop abuser de votre complaisance. Ce serait faire de moi le plus fier et pour une heure au moins le plus heureux des hommes, » protesta Lord Mallow d'un ton sentimental. « Et vous agirez franchement avec moi ? Vous ne me flatterez pas. » Je serai d'une franchise positivement brutale. Je remplirai consciencieusement le rôle d'un critique sévère de quelque Saturday Review, et je vous promets de vous éplucher. J'y compte et j'ai confiance, s'écria Lady Mabel avec joie. Je cherche un auditeur qui comprenne et qui juge, un critique trop loyal pour me flatter. Je me fie à vous comme Marguerite de Valois se fiait à Clément Marot. Lord Mallow ne savait rien de l'histoire du poète français Clément Marot, ni de sa royale maîtresse, Marguerite de Valois, mais il fit comme s'il la connaissait. Et au moment de se sauver pour courir à la chambre, il donna à Lady Mabel une poignée de main plus tendre que de coutume, pression significative qui scellait le pacte conclu entre eux et qu'elle accepta en toute confiance. Le lendemain matin, ils se rencontrèrent à cheval dans Rotten Row, et Lord Mallow, aussi sérieux que s'il se fût agi d'une question de vie ou de mort, demanda quand il lui serait permis d'entendre les intéressants poèmes de Lady Mabel. « Quand vous pourrez perdre votre temps à les écouter, » répondit la jeune poétesse, plus flattée de cette expression sérieuse que de toutes les sucreries qui lui avaient été débitées depuis ses débuts. « Si vous n'avez rien de mieux à faire cet après-midi, que pourrais-je avoir de mieux à faire ?»« N'attaquons pas cette grosse question, » dit Lady Mabel, souriant gentiment. « Si les affaires publiques, si les séances de comité peuvent vous laisser une heure ou deux, venez prendre le thé chez maman à 5 heures. Je la prierai de fermer sa porte à tout le monde, et nous aurons ainsi une bonne heure absolument libre pour que vous puissiez juger sévèrement mes pauvres efforts. » Et c'est ainsi que, par une belle journée de printemps, tandis que Roderick était sur le turf à Epsom, suivant passionnément la course du favori du derby, Lord Mallow, tranquillement assis dans un bon fauteuil du boudoir Reine Anne de Kensington et dégustant du thé à l'orange servi dans une tasse de Chine coquille d'œuf, écoutait les douceâtres accents de Lady Mabel, qui lui lisait d'une voix monotone et sans expression sa tragédie de l'âme sceptique. Le poème était long et, à vrai dire, excessivement ennuyeux. Quelle que fût son admiration pour la fille du duc, il y avait des moments où Lord Mallow se sentait des picotements aux paupières et dans les oreilles des bourdonnements comme si quelque malicieux insecte venait le taquiner et, du bruit de ses ailes vibrantes, troublait l'auditeur attentif et absorbé. L'attention n'était pas commode en vérité. Pas un point saillant, pas un élément d'intérêt pour la fixer dans ce serpentement rythmique qui déroulait incessamment ses interminables anneaux. Une minute de plus et l'âme sceptique de l'infortuné jeune homme était entraînée dans les sphères éthérées du sommeil. Il se secoua d'un violent effort juste au moment où la tasse coquille d'œuf, un bibelot rare et précieux, allait lui glisser des mains et redemanda à la duchesse un peu de ce thé délicieux. Il fixa résolument la belle jeune fille, dont les lèvres roses semblaient laminer gracieusement les plus insignifiantes platitudes, prétentieusement encastrées dans des expressions polysyllabiques d'une érudition rébarbative. Et au premier entr'acte, lorsque Lady Mabel déposa le manuscrit, en lui jetant un regard d'interrogation timide et muette, Lord Mallow, ouvrant les écluses aux réserves de son éloquence habituelle, noya littéralement la tragédie de l'âme sceptique sous un flot d'éloges invraisemblables, tels que jamais critique, sauf peut-être le critique irlandais, n'en avait jamais accordé jusque-là de pareil à n'importe quel poème, à n'importe quel poète. Richesse d'invention, mélodie du vers, nouveauté du rythme, éclat du coloris, variété de ton, profondeur de la pensée, raffinement d'exécution, personnalité du style, tout y était. Il était si reconnaissant à la Providence d'avoir échappé au sommeil qu'il ne trouvait pas de mots assez vifs pour exprimer sa satisfaction. Il aurait continué indéfiniment sur ce ton. Mais si quelqu'un lui avait demandé ce que signifiait en somme cette tragédie de l'âme sceptique, Lord Mallow eût été fort embarrassé pour répondre. Rien de faible comme les faiblesses d'une femme d'esprit. La faiblesse de Lady Mabel était de se croire une seconde Browning, et elle n'avait jamais éprouvé cette joie d'entendre cette idée qu'elle avait d'elle-même confirmée par un témoignage désintéressé. Elle buvait les louanges de Lord Mallow, et celui-ci, qui envoyait l'effet sur les lèvres tremblantes de la jeune fille, dans l'expression de son regard ému, allait toujours appuyer, insister, comparer la tragédie aux chefs-d'œuvre les mieux cotés, les rabaisser à son profit, et parler d'un tas de choses qu'il ne connaissait guère, abusant de l'éloge, comprenant qu'il disait précisément ce qu'il fallait dire et qu'il ne risquait rien d'en dire encore beaucoup plus. C'était un tête-à-tête, car la duchesse s'était franchement endormie. Sa tapisserie, tombée de ses mains, gisait entortillée dans les plis de sa robe et sa seconde tasse de thé restait à demi finie sur la table. « Je ne sais comment cela se fait, » dit-elle pour s'excuser après ce tranquille sommeil. Il y a dans la voix de Mabel quelque chose qui me berce et m'endort. Sa voix est si douce, si cadencée, si musicale. « Me conseillez-vous réellement de publier cet essai ?» demanda Lady Mabel, qui se sentait heureuse et légère comme l'oiseau. « Ce serait un crime de cacher au monde de pareils vers. Ce sera publié sous un pseudonyme, certainement. Je ne veux pas qu'on sache que je suis l'auteur de l'âme sceptique. » Sentir les yeux de chacun fixés sur moi, à l'opéra, dans Hyde Park, partout où je me trouverais, ce serait insupportable. Je serais fier de savoir que j'ai exercé quelque influence sur mon siècle, que je lui ai ouvert une nouvelle voie, mais je veux que personne ne sache et ne puisse dire en me voyant « c'est elle ». Et personne ne saura que je le sais, fit Lord Mallow. J'approuve certainement vos sentiments. Une publicité pareille ne peut que révolter un esprit délicat. Byron eût été, à mon avis, beaucoup plus heureux si personne n'avait reconnu en lui l'auteur de Childe Harold. Il s'est abaissé au niveau de l'acteur, jouant constamment son rôle de poète titré. S'il est vrai que Bacon ait écrit les pièces que nous attribuons à Shakespeare, et s'il a réussi à garder ce secret toute sa vie, voilà l'homme sage par excellence. « Vous n'avez encore fait que me louer, » dit Lady Mabel, après un silence plein de méditation, pendant lequel elle avait joué avec le fermoir d'or de son livre. « Je voudrais maintenant quelque chose de plus. Donnez-moi votre avis sur les défauts de mon ouvrage, sur les redondances, les côtés faibles, et indiquez-moi les perfectionnements qu'on y pourrait apporter. » Lord Mallow se tordait la moustache. Ceci était gênant. Entrez dans le détail. Mais, après quelque hésitation, il trouva le moyen de se tirer d'affaire. « Pouvez-vous me confier ce précieux volume ?» demanda-t-il enfin. « Si vous voulez bien, je l'étudierai à tête reposée. J'y passerai la nuit s'il le faut. Et je vous donnerai demain le résultat de mes réflexions. » Mabel lui mit le volume dans la main avec un sourire de reconnaissance. « Je vous en prie, soyez franc avec moi, » lui dit-elle. « Les louanges comme les vôtres sont dangereuses. » Cette fois, non content d'une simple pression, Lord Mallow baisa la main de Lady Mabel, et il parut radieux quand il partit en portant sous son bras le manuscrit dans sa reliure de velours. « C'est une charmante fille, » se disait-il en sortant. « Je voudrais bien qu'elle ne fût pas fiancée à ce campagnard. Et si elle pouvait ne pas être entichée de poésie, « elle n'est pas commode, la besogne de ce paysan du Hampshire. M'en voilà chargé maintenant, enfin. Mais si j'allais oublier ce livre précieux dans un cab, Dieu, quelle situation !» Fort heureusement, l'homme d'État naissant avait un jeune secrétaire fort bien doué qui, secrètement, lui mâchait la besogne, écrivait nombre de ses lettres, lui résumait les statistiques, les documents parlementaires, et lui épargner les visites des fâcheux. Et c'est à lui que Lord Mallow confia le précieux manuscrit de Lady Mabel. « Lisez-le attentivement lorsque je serai à la chambre. Écrivez sur une feuille de papier tout ce qui est bon, et sur une autre feuille tout ce qui est mauvais. Vous ferez une marque au crayon dans les endroits où je pourrai mettre comme note « divin, très original, sublime, etc. etc. » Le secrétaire était consciencieux. Il fit son devoir à fond, consacrant toute une nuit à l'étude de l'âme sceptique. La tâche était dure. Mais M. Allan était un Écossais opiniâtre, et il se flattait de se connaître en critique. La dissection d'un poème de jeune lady était précisément son affaire. Il cribla d'observations chaque page du manuscrit, fouillant les moindres détails du style, trouvant beaucoup plus à blâmer qu'à louer. Et le lendemain matin, avant le déjeuner, il livrait à son patron une analyse complète du poème. Dans l'après-midi, Lord Mallow alla prendre le thé chez la duchesse. Cette fois, il était sûr de son fait. Il rendit le volume de l'air d'un homme qui en a chaque mot gravé dans la mémoire. « Voyez, » dit-il en montrant les notes au crayon écrites en marge. « Voilà ce que j'appelle un passage remarquable, et cependant j'estime qu'il pourrait être encore renforcé grâce à quelques coupures. » Et il montrait à Lady Mabel combien elle obtiendrait un effet plus saisissant en enlevant 20 lignes sur 30. « Vous croyez réellement que ma pensée sera plus clairement exprimée ?» demanda Mabel en regardant avec regret les vers que le crayon de Lord Mallow raturait sans pitié, quelques-uns de ses plus beaux vers. J'en suis certain, cette grande idée ressemblait à une étoile perdue dans un ciel brumeux. Nous avons dissipé le brouillard. Lady Mabel soupira. Le passage me paraissait si clair, dit-elle. Parce que c'était votre propre pensée. Une mère reconnaît toujours son enfant, de quelque manière qu'il soit habillé. Ce fut une très sérieuse affaire. Lord Mallow discuta comme un journaliste de profession, critiqua sans merci et sans craindre de blesser la vanité de l'auteur. « C'est parce que vous avez un talent véritable que je me permets d'être brutalement sincère, dit-il, après avoir de son crayon réduit l'ouvrage à un tiers de sa longueur. Hier, je me suis laissé emporter par ma première impression. Mais aujourd'hui, je critique froidement, j'ai à cœur de voir votre poème obtenir un grand succès. » Cette phrase pouvait bien vouloir dire « Je ne voudrais pas qu'une aussi élégante jeune femme se fît bafouer. » Monsieur Vaudrey entra pendant que le poète et le critique étaient à l'œuvre. On lui expliqua ce qu'on faisait. Il ne témoigna aucune jalousie déplacée, mais parut heureux que Lord Mallow eût pu se rendre aussi utile. « C'est un très beau poème, dit-il, mais trop abstrait, trop métaphysique. J'en ai fait l'observation à Lady Mabel. Il faudra qu'elle change bien des choses si elle veut être comprise. » « Mon cher Roderick, mon poème est métaphysique, ou bien il n'existe pas, » répondit Lady Mabel dédaigneusement. Elle supportait mieux la critique de Lord Mallow que celle de Roderick. Après cela, le noble Lord prit l'habitude de venir tous les jours se rendre compte des progrès de Lady Mabel. La partie à faire lui avait été confiée, il était mieux au fait de ces choses que l'excellent mais rustique Rory. Il choisit l'éditeur, le format du volume, les caractères, le papier, la reliure, enfin tous les détails. Il fallait un titre en couleur, des lettres ornées, des encadrements, des culs de lampe. Il fallait enfin que le livre disputât à Firmin Didot la palme de l'art typographique. À la fin de mai, le poème était composé. La correction donna lieu à des discussions sans fin, tandis que Rory suivait les régates et les courses pour fatiguer son désœuvrement.